avec un panda, forcément il va parler de ce film. Alors, pas forcément, mais oui, je vais le faire.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma, bonjour !
Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le panda qui fait du kung-fu revient en salle pour frapper à nouveau le cinéma d'animation. Un quatrième opus vraiment nécessaire ? On se le demande et je vous donne mon avis dessus. À côté de ça, les premières critiques du Winnie horrifique sont là et elles sont mystérieusement positives. Que se passe-t-il ? Est-ce un miracle ? Dans la partie audio, on parlera des entrées en salle la semaine dernière et dans la partie vidéo, les films qui sortent en salle en France ce mercredi. Et il y aura aussi la question du public et je parle rarement de films qui sont pas dans l'actu. Connaissez-vous Battle Royale High School ? Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou dans sa version YouTube, quelle que soit la forme que vous choisissez, et ben vous avez du contenu exclusif à chaque coup, du coup n'hésitez pas à vous abonner à toutes les plateformes, que ce soit iTunes, Spotify, sur YouTube, avec le bouton s'abonner, la cloche, qui met encore la cloche en 2024. Le pire podcast cinéma, vous le savez, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Que se passe-t-il dans les studios DreamWorks ? Une question qu'on a tendance à se poser quand on voit les derniers films qu'ils ont sortis. C'est un peu la foire au n'importe quoi dans ce studio. Ça fait 15 ans qu'ils sont dans un schéma où on crée des licences, où on fait des suites de licences un peu torchées à la pisse, et de temps en temps, il y a des one-shots qui sont des petits chefs-d'œuvre. Rien que depuis 2020, on a eu Les Trolls 2, Les Croods 2, Baby Boss 2, et le 2 auquel on s'attendait pas du tout, c'était Le Chapeauté 2 qui était extraordinaire. Parce que le travail d'animation était époustouflant, parce que les thématiques de fond étaient bien traitées, parce qu'il y avait un récit riche en aventure et un méchant absolument iconique. Non, Le Chapeauté 2 en soi, c'est un petit miracle. Et après ça, on a eu Ruby Lado Kraken, Les Trolls 3 et La Nuit d'Orion. Soit une tentative vraiment banale, une énième suite pour les 5 à 10 ans et une sortie Netflix aussitôt vue, aussitôt oubliée. Et j'ai vu passer des gens dire que DreamWorks, c'est finito. Ça y est, c'est devenu nul à chier, tout ce qu'ils font, c'est de la merde. Et je pense que les gens qui disent ça ne connaissent pas très bien la manière dont fonctionne DreamWorks. Si on veut retourner un peu dans le passé, avant de sortir la dinguerie qui était Dragon, et ben DreamWorks, ils ont enchaîné le premier Chapeauté, qui était assez insignifiant, Madagascar 3, qui était clairement une suite de trop, ou Turbo, Turbo que tout le monde a oublié. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Un film pourri, un film nul, un film oubliable, et paf, un petit chef-d'œuvre. Et répéter l'opération ad nauseam. Je veux dire, après toutes les merdes que je vous ai citées ces dernières années, suffit de voir leur prochain film qui se profile à l'horizon, à savoir The Wild Robot, réalisé par Chris Sanders, qui est entre autres le papa de Dragon et de Stitch, un film qui, dès sa bande-annonce, annonce des visuels époustouflants dans une véritable ode à la nature. Ce film a l'air formidable et il m'a l'air, encore une fois, de respecter le schéma DreamWorks, à savoir que tu t'enchaînes 4 ou 5 films qui sont juste là pour rentrer du pognon et qui sont nuls à chier, et soudainement, enfin, un véritable plaisir artistique. Ah oui, mais attendez, ça veut dire que si on suit mon raisonnement et que The Wild Robot, ce sera le vrai bon film, ça veut dire que Kung Fu Panda 4, c'est tout pété. Oupsie.
Now you kids be careful of those fireworks.
Bon, déjà, avant de parler du quatrième opus, j'ai envie de vous expliquer un peu mon rapport à Kung Fu Panda parce que, il est assez lointain. Parce que le premier est sorti en 2008. À l'époque, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans quand le premier est sorti. Je vais avoir 30 ans dans un mois. La vie est une tartine de merde. Et à cet âge-là, j'ai plutôt bien apprécié le film, mais depuis, je l'ai revu qu'une seule fois. J'ai un souvenir global des personnages, des événements, mais il m'a pas plus marqué que ça. Idem pour le 2. Quand j'ai commencé à parler du 4 sur Instagram, le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui m'ont dit « Faut que tu revoies le 2, il est exceptionnel. » Ouais, mais le 2, je l'ai vu quand j'avais 17 ans. Et je l'ai pas revu depuis. Donc j'en ai des souvenirs extrêmement partiels. Bah oui, mais vous vous attendez à quoi? Les mecs font des suites de films sortis il y a 15 piges. Entre temps, on a un peu bourlingué. La mémoire a été utilisée à d'autres fins. Le troisième film, je peux vous le dire, je l'avais même oublié. Mais dans le sens où, quand j'ai vu le personnage du père apparaître dans le quatrième Kung Fu Panda, j'ai fait « Mais si, je l'ai vu à l'époque !» D'un demi-œil probablement, mais je l'ai vu. Vous devez le comprendre, à mon explication, je suis pas un gros fan de la licence Kung Fu Panda. C'est bizarre vu ton ancien pseudo à ta gueule. Ce sont des films que j'ai vus jeunes, que j'ai appréciés, mais si je devais choisir des films à l'époque, j'ai préféré par exemple Le souffle épique d'un dragon, ou La douce folie avec laquelle j'ai grandi dans Shrek 2. Shrek 2 qui est le meilleur épisode de la saga Shrek. Des os, pas des os. De toute façon, vous voulez pas avoir le débat de quel est le meilleur film DreamWorks. C'est Le Prince d'Égypte. Voilà, je vous laisse avec ça. Donc, quand arrive le quatrième film Kung Fu Panda, je tombe pas de ma chaise d'excitation. Non, ma première réflexion, c'est étiez-vous obligé véritablement de faire ce film? Je veux dire, le premier à 16 ans, il faut passer à autre chose. Oui, mais la licence a eu un véritable revival sur Netflix, et puis ça fait de l'argent en Chine, d'accord. Nouveau public et une licence sur laquelle on peut capitaliser avec de l'argent, super les raisons de faire un nouveau film. Puis quand je regarde qui est le nouveau réalisateur, je découvre qu'il s'appelle Mike Mitchell. Et Mike Mitchell, qu'est-ce qu'il a réalisé? Eh bien, il a réalisé Shrek 4, qui est probablement le pire film de toute la saga, ou encore Alvin et les Chipmunks 3. Ce qui veut dire qu'il y a eu 3 films Alvin et Chipmunks, ça me terrifie. Bref, nous avons donc une bonne équipe de vainqueurs dédiée à une licence faite seulement pour capitaliser du pognon sur le marché chinois. Et ben ça fait envie les intentions derrière ce long métrage. Kung Fu Panda 4 raconte donc l'histoire de Po, le guerrier dragon qui, alors qu'il cherche un successeur, va devoir s'allier avec une renarde voleuse qui passait par là afin de lutter contre une méchante caméléon qui fait revenir ses anciens némésis à la vie afin de dominer le monde. Il y a déjà beaucoup de problème juste avec ce résumé, c'est vous dire. Parce que le scénario est un énorme prétexte. Tout est un peu gratos à l'intérieur de ce film qui se base sur beaucoup de rien. Là, on pouvait se dire avec le troisième film, ok, il y a quelque chose à raconter parce qu'il a été adopté, donc on peut parler de sa famille, d'accord. Il y a quelque chose pour enrichir le personnage, enrichir la licence. Ici, tout a l'air de se produire parce que, fallait faire un nouveau film, fallait bien rajouter des trucs. Pourquoi est-ce que Po doit chercher un successeur? Bah pourquoi pas, le scénario a décidé que ce serait le cas et même Po n'a pas particulièrement envie. T'as vraiment l'impression que le personnage a pas évolué en 3 films, ça aussi c'est un autre problème. Pourquoi est-ce que les grands méchants iconiques de Kung Fu Panda reviennent? Alors déjà méchant, iconique et Kung Fu Panda dans la même phrase, ça me fait un peu mal. Et puis surtout ce sera gratos pendant 1h20 et à la fin on te dira non mais en fait c'était pour ça et tu feras ah ok d'accord. Pourquoi la team des 5 cyclones sont plus là? Parce qu'ils allaient alourdir l'histoire. Non, on a qu'à dire au tout début au détour d'une phrase qu'ils ont piscine. Et la renarde en question qui va servir d'acolyte, elle sert surtout à apporter un scénario téléphoné dont on comprend très rapidement les enjeux et tous les twists qu'on va tenir à 3 km. Pire que ça, le film s'est tellement rien raconté que il y a une sous-intrigue. Oui, le film a une quête annexe où tu vas suivre les deux papas de Po. Parce que oui, Po a deux papas. En effet. Et ça ne l'a pas empêché de devenir quelqu'un de très équilibré, et même le guerrier dragon. Bref, les deux papas qui vont suivre leur fils toujours avec 2 scènes de retard, qui vont repasser par les mêmes décors et faire « Il est sûrement passé par là, ils ne seront jamais moteurs de l'histoire, ils sont juste là pour faire des blagues et combler un peu le trou, parce que sinon le film durerait 45 minutes. » On s'ennuie devant ce film, vraiment. Je crois que c'est le problème évident quand on regarde Kung Fu Panda 4, c'est qu'on s'ennuie devant le vide dont l'espace immense nous semble évident. Mais c'est pas nul. Ouais, je sais, alors vu tout ce que je viens de dire, on a l'impression que je défonce le film, mais... En vrai, je le trouve pas nul, parce que il est pas tant intéressant dans ce qu'il dit, mais plutôt dans ce qu'il montre. Alors attention, vous attendez pas ni à la folie visuelle, ni à la personnalité d'un chapeauté 2, mais il faut dire quand même que le travail d'animation a plusieurs idées que je trouve particulièrement bonnes. Dès le départ, je trouve assez beau la manière d'animer les différentes transformations du caméléon, et même plus tard dans l'histoire, ça regorge de petites idées visuelles qui viennent enrichir l'univers. Je pense notamment aux poissons à l'intérieur de la bouche du pélican, je pense à ce bar qui a été créé au bord d'une falaise, et qui donc la situation va enrichir aussi la scène d'action. Et je parle des combats, mais oui, encore une fois, je pense que c'est un des points forts du film, la manière dont on représente en animation certains combats. Je parlais du bar au bord de la falaise, mais juste après ça, t'as une scène par exemple d'action où ils sont poursuivis par des vagues de flics qui déferlent de tous les sens. C'est plutôt bien foutu. L'inventivité des scènes d'action est proportionnellement opposée à l'inventivité de l'écriture. Plus il dit des conneries, plus il montre des trucs sympas. C'est dommage qu'en fait ça serve jamais à un récit construit. Parce que on va être honnête, détecter tous les petits gags d'animation en arrière-plan, se toucher un petit peu sur la manière dont on a animé avec des estampes, avec de la peinture et tout, certaines scènes, ça fait plaisir à des nerds comme moi, mais le grand public, si tant est qu'il existe, mais le grand public quand il va voir Kung Fu Panda 4, ce qui l'intéresse c'est d'avoir une histoire originale et amusante et drôle. Le problème, c'est que le film ne propose jamais ça. En fait, encore une fois, il est pas drôle dans son écriture. C'est-à-dire, par exemple, je trouve que toutes les blagues de Jack Black, même si j'adore Jack Black et que je suis fan de lui, je trouve que ça fonctionne pas particulièrement à l'intérieur. Par contre, tous les petits gags visuels qu'il va apporter, quand c'est pas des gags ou avec des blagues de prout, il y a quand même 2-3 trucs un peu marrants. Mais le problème, ça va être les dialogues qui sont d'une lourdeur terrible. Et encore, j'aborde pas le climax du film et la manière dont se résout l'histoire. Parce que quand arrive la fin de Kung Fu Panda 4, tu dis, ah ouais, d'accord, vous m'avez tenu en haleine pendant 1h20. Juste pour ça, vraiment la manière dont se déroule le combat final, mais c'est rincé et en plus un peu irrespectueux vis-à-vis des films précédents et de la logique qu'on peut donner au personnage de Po et de ses capacités. Et le pire, c'est que je pense que les gens derrière ce film savent que la licence est rincée. Dès le départ du film, t'as une scène assez critique où on voit que Po est devenu une marque qui signe des autographes et que c'est assez mal vu parce que ça le détourne du fait de bah, de faire des putains de bons films. Et à la fin même, le personnage, pendant le combat, répète plusieurs fois le fait que il a déjà vécu cette situation, il a déjà vécu ça. Et c'est le problème, parce qu'en tant que spectateur, on se dit, oui, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. C'est pour ça que je m'ennuie. Donc, c'est pas honteux, parce que les animateurs ont fait un travail solide. C'est juste inutile. Et je vais pas rentrer dans le débat de film utile, film inutile. C'est juste que j'ai l'impression que le film n'apporte rien. Ni à sa licence, ni à son récit, ni à ses personnages. Seulement de la thune dans les poches de DreamWorks. Je vais le dire, hein, mais le moment qui m'a le plus, c'est le training montage du générique de fin avec Baby One More Time repris par Tenacious D. Voilà. Ça, bah oui, là j'étais content. Mais c'est dommage parce qu'il y a un film avant. Donc voilà, c'était une suite de films pas dingue. Normalement, la prochaine, c'est la bonne. Me décevez pas DreamWorks, hein, j'y tiens à mon théorème tout pété. Ce serait con de le plomber.
We're not so different, you and I.
Stand back. I'm gonna kick my butt.
Ouais, bon, alors, ce sujet-là, on va pas faire trois plombes dessus, c'est juste que j'ai reçu beaucoup de questions qui m'en parlaient et que je me suis dit que j'allais le caler ici. Je vais pas refaire tout l'historique. Connaissez-vous Winnie the Pooh, Blood and Honey, le film d'horreur tout pourri, qui était vraiment absolument terrible, tiré du fait que Winnie l'ourson est tombé dans le domaine public? Ça a bien marché, tout le monde a détesté, ils ont quand même fait une suite, elle vient de sortir. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai sorti une émission la semaine dernière qui en parle du fait que, à partir de ce film-là, ils ont carrément créé tout un multiverse des contes pour enfants, films d'horreur. Bref, j'en parle dans une autre émission. Le truc, c'est que je vous avais dit la semaine dernière que je comptais y aller. Et après réflexion, j'ai eu la giga flemme. En fait, c'est 3 séances uniques ici à Montréal et ça demande de se bouger super loin pour pouvoir voir le film. Et je suis désolé, mais à 14$ la place, la blague d'aller voir un film nul pour voir un film nul, bah, elle va quand même être d'assez courte durée. C'est-à-dire que je préfère mettre de l'argent dans le fait de rester chez moi et puis de passer du temps avec mon chien. Voilà. Sauf que Vlatipa, ouais, Vlatipa, j'utilise des expressions du 14e siècle, il n'y a aucun problème. Sauf que Vlatipa, que les premières critiques de ce nouveau Winnie the Pooh Blood and Honey viennent de sortir. Et que pour la grande majorité, elles sont extrêmement positives. Puisque les critiques en question viennent du site Rotten Tomatoes, qui, on le rappelle, est un site extrêmement manipulable, où t'es obligé de donner ton avis de manière super manichéenne, à savoir, est-ce que t'as aimé ou est-ce que t'as pas aimé, et puis basta. C'est compliqué en plus de donner son avis sur un film de cette manière-là, est-ce que t'as aimé, est-ce que t'as pas aimé. Genre par exemple, voilà, je vous ai parlé de Kung Fu Panda 4, je suis vraiment très au milieu sur ce film. Bah je sais pas si je lui donnerais une jolie tomate ou une tomate pourrie. Eh bien, Winnie 2 vient lui de son côté de décrocher la timbale, en affichant à son démarrage une note de 100% sur Rotten Tomatoes. Un score parfaitement aberrant quand on sait la qualité de ce genre de film. En comparaison, le premier film, lui, a encore une note aujourd'hui de 3%. Oui, de 3%, on est passé à 100%. Que s'est-il passé? Est-ce que vraiment le film est de meilleure qualité? Mais on n'en sait rien. Déjà, la note de 3% du premier volet s'établit à partir d'un panel de 60 votants. Concernant le deuxième, la note de 100% s'est établie à partir d'un panel de 6 votants. Ouais, forcément, ça réduit un peu. Qui plus est, dans les 6 critiques qui ont déjà noté le film, eh ben un seul est un top critique très sérieux qui écrit pour un site reconnu qui est AV Club. Et si on regarde ses notes habituelles à ce mec, eh ben on se rend compte qu'il aime majoritairement tout ce qui sort. C'est d'ailleurs un des rares qui avait attribué une note positive au premier film Winnie the Pooh Blood and Honey. Donc sur les 6, ça veut dire qu'il y a déjà un critique très gentillé qui avait adoré le premier et c'est pour ça qu'on lui a envoyé le deuxième. Et si on regarde les 5 autres, eh ben on se rend compte que les jolies tomates symbolisent en fait des notes de médias assez moyennes. Genre il y a eu la tomate rouge mais pour des notes à 3 sur 5, 6 sur 10, 11,5 sur 20. Des notes qui sont quand même très très loin du 100% affiché. Puis c'est bizarre quand même que le film ait été montré qu'à des gens de la presse internationale qui ont l'habitude d'aimer particulièrement ce genre de film. C'est quand même bizarre, dites donc. Donc, est-ce que Winnie the Pooh Blood and Honey, c'est mieux que le premier? J'en sais rien, je l'ai pas vu. Par contre, est-ce que la note de 100% annonce que ça va être vraiment un film de grande qualité? Non. Pas du tout. Je suis désolé, hein, j'ai vraiment l'impression de faire de la pédagogie ultra frontale, mais faut arrêter de se faire avoir par les gros effets d'annonce. Juste lire le titre de l'article et se dire « Oh putain, il a eu 100%, le film est forcément extraordinaire !» Non, parce que c'est des conneries, faut réfléchir, faut lire en entier, faut contextualiser. Je dis pas non plus qu'il faut virer complotiste, je dis juste que quand on parle de cinéma, et que notamment on lit une critique, il faut se poser des questions du style « Qui parle de ce film ?» C'est quoi son parcours? Qu'est-ce qu'il a à dire sur les autres films de ce genre-là? Pourquoi est-ce qu'il en parle comme ça? Comment est-ce qu'il a vu le film d'ailleurs? Dans ce cas précis, personnellement, si je dois donner mon avis perso de mec qui a pas encore vu le film une nouvelle fois, je pense que tout ce qui est raconté est du giga bullshit et que le film va être une énorme merde. Mais je leur accorde quand même quelque chose qui a l'air de revenir dans bon nombre de points. Visiblement, ils racontent tous qu'il y a eu davantage de budget pour faire ce film et qu'ils ont pu se permettre de faire plus grand, avec plus de personnages, plus de scènes, etc., avec plus de violences visibles et tout. Je le remets pas en cause parce que c'est déjà présent dans les trailers. C'est-à-dire que si vous regardez le trailer du film, vous vous rendez compte déjà que bah ça a une meilleure gueule que sur le premier, qu'ils ont l'air d'avoir un peu investi, que les costumes font moins de chipos. Forcément, le premier a fait beaucoup de bruit, donc il faut capitaliser sur le deuxième et pas produire un truc au rabais. Il faut essayer justement de se donner un peu plus. Mais avoir l'envie de faire mieux, ça fait pas nécessairement un bon film. Et si on commence à regarder les notes des spectateurs qui reviennent notamment sur des sites comme Letterboxd, là, ça devient un désastre. Globalement, tout le monde le défonce. Hein. Ça dit que c'est mieux que le premier, mais que c'est toujours pourri. Il paraît même, d'après une critique, que le film inclut une référence à Morbius. Voilà, je sais pas, est-ce qu'ils vont faire « It's Winnie Time » mais le film est déjà ringard alors qu'il est pas sorti. Donc, je vais pas aller perdre des heures de ma vie à aller voir ce film en salle. Non, je vais attendre gentiment qu'il débarque en VOD, ce qui devrait arriver extrêmement rapidement. Le film a une sortie limitée aux US et tout. Non, ils vont le balancer en ligne dans quelques semaines à peine. Et à ce moment-là, je le jugerai et je vous en parlerai. Mais je vous en conjure, quand un film a des bonnes critiques et des bons articles comme ça, remettez en contexte. Moi, je les envoyais pas nécessairement parce que vous êtes en train de vous faire avoir. Vraiment. Et du coup, on en reparle quand on aura enfin pu voir le film. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des sorties de la semaine à ne pas rater. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit point sur le box-office. Alors, qui marche dans les salles en France? Bon, c'est très compliqué niveau box-office. Oui, ça fait plusieurs semaines que je vous dis ça, mais je vous disais la semaine dernière que, attention, il y a le printemps du cinéma qui va arriver avec sa place à 5€. Ça va nous sauver. Bah, pas encore, pas tout à fait. Parce que moi, je me base sur les chiffres à la fin du week-end et le printemps du cinéma a démarré dimanche. Et sur les 5 jours qu'on va compter aujourd'hui dans notre analyse, eh ben 40% des entrées ont été faites le dimanche. Tu te dis chouette, ça veut dire waouh, il y a énormément d'entrées qui ont été faites pour le printemps du cinéma, il y a une vraie grosse relance. Ouais, mais en fait non, parce que le total du dimanche c'est 750 000 entrées, alors que l'année dernière le printemps du cinéma c'était 1 million 15 d'entrées le premier jour. Alors déjà il y a la faute à une offre qui est moins attractive. L'année dernière il y avait Creed 3 en salle, il y avait John Wick 4, il y avait Scream 6, il y avait Alibi.com 2, et cette année les studios ont clairement pas joué le jeu, ils ont décalé leur sortie vers les vacances de Pâques, alors que Kung Fu Panda 4, SOS Phantom 2, bah c'est des films qui sont déjà sortis aux États-Unis. Ça aide donc pas à faire des entrées, mais l'info en plus qu'on peut ajouter, c'est que avant le partenaire du printemps du cinéma, c'était Canal+, c'était la BNP, ils mettaient le paquet sur la communication. Aujourd'hui, le partenaire du printemps du cinéma, c'est le CCCA BTP, à savoir globalement les métiers de la construction. Bah voilà, c'est pas étonnant qu'ils aient pas la même force de frappe. Mais du coup, niveau chiffres concrets, ça donne quoi? Eh bah tout d'abord, on va parler des nouvelles sorties avec Immaculée, dont je vous ai parlé dans la précédente émission, qui fait 96 000 entrées sur 302 copies, ce qui est un score normal mais pas dingue. On s'attendrait à un petit peu plus, mais pour du cinéma d'horreur, ça reste dans une moyenne. Ensuite, il y a Karaoké, le désastre comique avec Michel Larocque et Claudia Tagbo, qui fait 81 000 entrées sur 567 copies. Là, ça pue. Faire moins d'entrées avec 200 copies en plus, c'est quand même très compliqué et il faut dire que le marché actuellement est un peu saturé par les comédies françaises. Ensuite, il y a Hors Saison, le nouveau film de Stéphane Brisé qui fait 80 000 entrées sur 334 copies. Bah, c'est mieux, mais c'est pas dingue non plus. Le score est pas faramineux. Et j'ai pas revérifié d'ailleurs, je manque à tous mes devoirs. Mais je crois que c'est moins bien que les scores que faisait Stéphane Brisé avec le cinéma, avec Vincent Lindon, avec Anguère, avec tout ça. Faudrait peut-être que je revérifie, mais je crois que c'est moins bon. Ensuite, il y a la comédie Bis Repetita qui, elle, se plante pas mal avec 38 000 entrées sur 197 copies. Et le petit démarrage de la semaine, c'est Vampire Humaniste Cherche Suicidaire Consentant qui fait 15 000 entrées sur 113 copies. Alors, c'est très très peu, mais, je voudrais vous remercier pour tous vos messages, parce que quand j'ai parlé du film, je me disais, est-ce que ça va intéresser les gens? Et j'ai reçu énormément de messages de gens qui sont allés voir Vampire Humaniste après que j'en ai parlé. Donc ça me touche beaucoup, je suis très content que le film vous plaise. La question qu'on peut se poser alors, c'est qu'est-ce qui marche en salle? Qu'est-ce que les gens vont voir? Bah, à l'évidence, ça reste Dune 2, c'est encore Dune 2 qui carie toute l'affaire. Le film a fait plus 356 000 entrées à la fin de ce week-end, ce qui fait qu'il atteint un total de 3 millions 3. C'est au-dessus du premier volet, ça y est, Dune 2 a dépassé le premier film. Et à côté de ça, on a Une Vie avec Anthony Hopkins qui continue de faire des entrées, qui en est à 1 million 3, et la comédie Heureux Gagnant, sortie la semaine dernière, qui atteint les 241 000 entrées. Globalement, les chutes pour les films sortis les semaines précédentes sont moins lourdes que la semaine dernière. Faut dire que les chutes la semaine dernière avaient été vraiment, vraiment lourdes, on peut difficilement chuter plus. En fait, je pense que les vraies bonnes nouvelles arriveront en début de semaine prochaine avec, bah, comme je vous disais, ce mercredi, Kung Fu Panda dont on vient de parler, et l'effet du printemps du cinéma qui, je pense, va pas mal aider. Et si on veut faire un détour rapide du côté des États-Unis, parce qu'on a longuement parlé du cinéma français, bah Ghostbusters est déjà sorti et c'est qu'elle est directement à la première place. Il a fait 45 millions de dollars aux États-Unis à la fin de son premier week-end, ce qui est équivalent au score du premier. Il n'y a pas de chute particulière. Dune, deuxième du nom, atteint un total monde de 575 millions de dollars. Timothée Chalamet entre Wonka et ça, mais c'est vraiment un des mecs les plus bankable du cinéma actuel. Et en troisième position, c'est Kung Fu Panda 4 qui fait déjà 269 millions de dollars. Bah, le film est déjà plus que rentable avec ses 80 millions de budget. Et il va être aidé par le marché chinois, on le sait. Bravo à lui. Bref, c'était les scores de la semaine. On déprime un petit peu en regardant ces résultats du box-office, mais on aura sûrement des choses plus intéressantes à raconter la semaine prochaine. Est-ce que l'effet printemps du cinéma va être tant remarqué? On croise les doigts et on espère. Et sur ce, on avance.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis hey, « vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous en avez une, bah, vous avez la possibilité de passer dans l'émission. Je lis vos questions, j'en sélectionne une, elle passe. Bref, suivez-moi sur Instagram, le lien est en description, ce sera plus simple. Et aujourd'hui, la question nous vient de Geoffrey Lévesque qui demande « As-tu entendu parler de Baby Invasion d'Harmony Korine ?» Ouais, et j'ai pas tout compris. Petite remise en contexte, à la base, Harmony Korine, c'est un scénariste qui s'est occupé d'écrire les deux seuls bons films de Larry Clark, à savoir Ken Park et Kids, et qui, ensuite, est devenu réalisateur lui-même. Il a d'abord réalisé Gueumont en 97, et ensuite, on va sauter quelques films, mais en 2012, il a fait le chef-d'œuvre qui est Spring Breakers. Oui, je sais, à chaque fois que je dis ça, je me tape des commentaires de gens qui disent « Quoi ? Spring Breakers ? D'où c'est un chef-d'œuvre ?» Vous êtes pas prêts pour ce débat, parce que je considère personnellement que Spring Breakers est un des films majeurs du cinéma américain post-2010. Encore une fois, vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Il va falloir à un moment qu'on fasse la comptabilité sur les 100 derniers épisodes de toutes les fois où j'ai dit « vous n'êtes pas prêt pour ce débat ». Il y a beaucoup de débats sur lesquels vous n'étiez pas prêt. Ces derniers mois, Harmony Korine a refait parler de lui avec son nouveau long-métrage qui s'appelle « Agro Drift », une expérience assez particulière qui met devant la caméra Travis Scott, un film filmé entièrement en infrarouge et diffusé seulement dans des clubs de striptease aux États-Unis. Ouais, on dirait que comme ça, j'invente ce que je suis en train de raconter, mais je vous assure que pas du tout. Eh ben, le film suivant d'Harmony Korine a été annoncé et dans celui-ci, la Terre sera envahie par des aliens bébés. Encore une fois, je répète, je suis pas en train d'inventer. Harmony Korine décrit le film comme, je cite, « un film d'horreur dans certains de ses côtés et proche des jeux vidéo FPS, raconté majoritairement à travers des GoPro et des caméras de sécurité ». Effectivement, quand on fait un peu plus de recherche sur le film, on se rend compte qu'il a été entièrement filmé avec des GoPro directement accrochés sur les comédiens et sur le réalisateur lui-même. Et quand on en arrive à la partie alien, eh ben on découvre que de l'IA a été utilisée pour remplacer les visages des envahisseurs par des visages de bébés. J'aime beaucoup le type, mais là, ça a l'air d'être un concept tellement con. En fait, c'est soit giga teubé nul, soit le film expérimental du siècle. Il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est un peu le problème avec Harmony Korine ces dernières années, qui enchaîne les concepts de plus en plus étranges. Il a même créé sa propre boîte de production pour ça, qui s'appelle Edgelord. Rien que le nom de ta boîte de prod, c'est Edgelord, putain. Alors, c'est important que des cinéastes ne restent pas que dans des formes dites conventionnelles et qu'ils expérimentent de nouvelles choses au cinéma. Mais le problème, c'est que la frontière est très floue entre l'expérimentation réussie et le film de festival un peu pérave. Et d'ailleurs, en parlant de festival, si on parle autant de ce film, c'est qu'il fait partie des très très grosses rumeurs pour intégrer la sélection séance de minuit du prochain festival de Cannes. Un endroit où on retrouve régulièrement d'ailleurs les films les plus bizarres. Chaque année, il y a du cinéma coréen, c'est vraiment the place to be pour ça. Et le circuit des festivals, ça aide vraiment ce genre de proposition bizarre. C'est-à-dire, si on a autant parlé de Agro Drift avec Travis Scott, là dont je vous parlais, c'est parce qu'il a fait sensation au dernier festival de Venise. Mais je peux pas m'empêcher de me demander si des fois, Harmony Korine ne devrait pas retourner à des formes dites plus classiques. C'est-à-dire que ça lui permettrait de développer son propos d'une certaine radicalité sur le monde, mais en même temps de toucher un plus grand public. Je sais pas, je me dis que quand il aura testé des formes et des nouvelles choses, il pourra peut-être les canaliser pour faire un film possiblement plus fédérateur. Parce que là, voilà, son invasion de bébés filmé en FPS... Bah oui, les gros nerds comme moi, ils vont regarder parce que ça a l'air complètement staré. Et puis voilà, on a envie de voir ça. Mais pour les autres, j'ai malheureusement plus de doutes.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et ce vendredi, bah dans la prochaine émission, c'est vous. J'avais complètement oublié. Effectivement, la prochaine émission, c'est vous. Je le dis à chaque fois. C'est vous qui prenez la parole. Pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes sur un film récent ou non. N'hésitez pas. Venez parler de cinéma, qu'on entende votre voix. Et moi, de mon côté, bah en fait, j'avais pas d'autres films d'actu à traiter. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai vu un machin bizarre la semaine dernière, je vais leur parler de machin bizarre, ça va être sympa. Ce machin bizarre, il s'appelle Battle Royale High School. Parfois, on laisse des films de côté dans notre watchlist en se disant « Waouh, ça a l'air vachement sympa, il faudra vraiment que j'y jette un œil un jour. » Et puis le temps passe et t'oublies. Et tu finis finalement un soir où tu t'ennuies à tomber sur ta watchlist et à faire « Tiens, ce truc-là, c'était quoi déjà ? Pff, j'ai un peu de temps, ça dure une heure. Allez, on va y jeter un coup d'œil. » Et t'en ressors au bout d'une heure en te disant « Putain, qu'est-ce que je viens de regarder ?» Alors pour donner du contexte, Battle Royale High School, déjà, ça n'a rien à voir avec la licence bien connue qui s'appelle Battle Royale. Vraiment, ça n'a aucun rapport. C'est à la base un manga en 4 tomes qui a été créé par Shinichi Kuruma et qui est sorti au milieu des années 80. Et le film en question dont on parle aujourd'hui compile en fait ces 4 tomes en un seul long métrage. Shinichi Kuruma, d'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose dans sa carrière à part Battle Royale High School. Alors si, j'ai vérifié, il a bossé sur le design des créatures pour les films Persona. Vous connaissez Persona ? Et en faisant des recherches d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'un des assistants réalisateurs sur Battle Royale High School, le film, eh ben c'est Hideaki Anno, le papa d'Evangelion. Vous connaissez Evangelion ? J'adore quand toutes mes obsessions se réunissent en un seul truc, c'est merveilleux. Donc Battle Royale High School, ça raconte l'histoire de Ricky qui fait du karaté au lycée. Et il est trop fort en karaté, il porte un masque de tigre quand il fait du karaté, il a même battu son prof, les filles sont fans de lui, tout va bien pour Ricky. Mais un jour, son double d'un autre monde, qui s'avère être le maître du royaume des ténèbres, débarque par une porte interdimensionnelle et lui dit « Bon, alors frérot, il y a une fée qui m'a trahi, elle a prévu de posséder les gens et de les transformer en démons, et du coup, on va devoir les combattre. » Je suis certain que j'ai déjà perdu pas mal de gens avec cet énoncé-là, et j'ai pas encore abordé la question du doppelganger extraterrestre qui vient les aider. C'est un autre sujet. Vous vous en doutez vu ce que je raconte, c'est un peu le bordel. Et c'est le vrai défaut qu'on pourrait imputer à ce film-là, à savoir que vouloir condenser 4 tomes d'un manga en un seul film d'une heure, comme je vous disais, bah ça fait quand même beaucoup d'événements pour tenir là-dedans. Mais je vois ça à la fois comme un défaut et comme une qualité, parce que ça donne une heure qui va être surexplosive, où ça ne s'arrête jamais avec un rythme de dingue. Parce qu'on va suivre plusieurs personnages sur plusieurs timelines, qui viennent de plusieurs univers, qui ont parfois la même tête et qui combattent ensemble et qui parfois combattent les uns contre les autres en étant possédés, en n'étant pas possédés et qui doivent en plus attaquer d'autres démons. C'est un bordel fou et pourtant, c'est super lisible. C'est pour ça que je comprends qu'on puisse lui faire le reproche de son trop-plein, ce qui fait que l'écriture pêche un petit peu. Mais en même temps, je suis jamais perdu. Je suis toujours pris dans le flot de l'action et j'accepte chaque nouvelle scène qui vient avec beaucoup de facilité. Et c'est aidé par la fluidité de son animation. Alors oui, il y a un paquet de combats, d'accord. Mais surtout, il y a une imagerie gore dans le film qui est... En fait, je crois que c'est ça qui m'avait attiré. C'est que j'avais vu passer un gif sur Twitter ultra gore et j'avais dit « Mais c'est quoi cet animé ouf ?» Et du coup, c'était ce film-là. En fait, les démons qui vont posséder certains corps les déforment de l'intérieur et parfois même les font exploser de l'intérieur, ce qui va donner deux, trois scènes assez cradingues, mais personnellement, j'aime beaucoup. C'est pas malin pour dessous, mais ça reste assez entraînant, parfois un peu bête, mais assez imaginatif, tant dans son bestiaire que dans son action. Et ouais, en termes de petites œuvres d'animation japonaise méconnues, je pense que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil, surtout quand on connaît l'équipe qui était derrière à l'époque. Donc je vous encourage à découvrir Battle Royale High School. Et là, normalement, c'est le moment où je vais me ramasser des messages du style « Et on le voit où ? Il est sur Netflix ou pas ?» Non, il est nulle part. Il y a bien un DVD qui est sorti en 2003 sur le continent américain, mais aujourd'hui, il a complètement disparu. Donc si vous voulez le voir, il va falloir chercher. Oui, parce que je vais pas vous donner des astuces. Et pour le coup, trouver une version doublée en anglais, c'est super facile. Trouver la version que j'ai regardée, à savoir japonais sous-titré anglais, ça va demander un poil plus de recherche. C'est toujours un moment où je me sens un peu vieux, c'est le fait que peut-être je viens d'une génération où on cherchait beaucoup. C'est-à-dire que en 2007, 2008, 2009, quand on cherchait un film, on était obligé de creuser, de gratter. C'était pas simple. Aujourd'hui, l'offre légale existe, et tant mieux qu'elle existe avec autant de présence, mais du coup, on a perdu le goût parfois de « Putain, je trouve pas ce film, où est-ce que je peux le dénicher ?» J'ai l'impression que certaines personnes ont perdu le goût de se sortir les doigts et d'aller déterrer des trucs. Et c'est le problème, moi j'adore les films paumés. Je me rappelle quand je cherchais un film thaïlandais jamais sorti en Occident et qu'il a fallu que j'aille le screener sur un site de streaming thaïlandais où il y avait que des pubs porno partout autour pour pouvoir ensuite le synchroniser avec une piste de sous-titres que j'avais traduit et retravaillé moi-même. Le film était super. Mais voilà, vous imaginez donc la galère que j'ai eue à le voir. Je pense que je viens d'une génération justement où on galérait à trouver ces films-là, mais putain, quelle satisfaction quand enfin on pouvait les voir et qu'on découvrait quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et je le vois là avec tous les messages de gens qui m'envoient des trucs pour me dire « Où est-ce qu'on peut voir les films Godzilla ?» C'est tellement simple. Mais vraiment, c'est tellement simple dans des offres légales. Et du coup, bref, pardon, c'était mon petit énervement de fin d'émission. Voyez Battle Royale High School. C'est super. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Je me demande si je peux parler plus vite que ça. Non, pas beaucoup plus, sinon ça va donner un truc qui dit ça va beaucoup trop vite et je serai obligé de faire un clip en intelligence artificielle. La vanne est gratos, j'ai vu toute la polémique sur Big Flo et Oli et tout ça. J'arrive pas à me situer, j'arrive pas à savoir si je suis pour ou contre. Je m'en fous un peu en fait, pour être tout à fait honnête. Pourquoi est-ce que je parle de ça pour terminer l'émission? Allez, il nous reste encore une émission ce vendredi, donc on se retrouve vendredi. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.